But it's a beautiful day for America and France. And I will speak in French because I am obliged, to do that for my country.
Bonjour, bienvenue à vous, je suis Perrine Andrieux et je vous souhaite une bonne écoute des Pressés de l'Expression, le podcast qui vous aide à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel. Dans cet épisode, nous allons élargir un peu notre cadre d'expression et nous allons nous pencher sur les langues étrangères. Mais d'abord, j'aimerais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et certains m'envoient des messages. J'adore, ça devient interactif. Ce podcast me semblait au départ quelque chose d'assez unidirectionnel, on va dire. Et ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez envie, vous aussi, de vous impliquer. J'ai reçu plein de questions, et pas que de mes amis. Je vais aujourd'hui répondre à Sandra. Sandra dont le collègue met systématiquement un accent sur le A de a priori. Et elle aimerait savoir comment lui dire. Eh bien oui, aujourd'hui je vous livre le secret pour expliquer à votre collègue qu'il écrit mal et quand même passer pour quelqu'un de bienveillant. Il est de notoriété mondiale que les Français parlent peu les langues étrangères. Peu et mal.
American people, American people.
And I will speak in French because I am obliged, to do that.
Vous avez reconnu François Mitterrand et François Hollande qui ne sont pas les seuls présidents de la République à peiner quand il s'agit de s'exprimer autrement qu'en français. Souvenez-vous, you are welcome to invest in France, we will be happy to help you make money in France. C'était Nicolas Sarkozy, comportement très radiophonique de ma part parce que j'ai fait les gestes en plus. Maîtriser les langues est un plus pour trouver un emploi. Vous pouvez évidemment vous la jouer Christine Boutin.
I am a French deputy. And I speak French. Oh my
God ! Vous vous réclamez de qui vous voulez, mais se passer des langues étrangères est de moins en moins accepté par le monde du travail. Il faut par conséquent non seulement maîtriser, mais en plus connaître son niveau et le répertorier clairement sur son CV. Comment bien répertorier les langues sur votre curriculum vitae et comment définir votre niveau ? Lu, écrit, parler, ce n'est plus possible. Personne ne peut véritablement juger ça. De même si vous écrivez bilingue allemand parce que vous avez fait un stage d'été à Hambourg quand vous aviez 14 ans, sincèrement vous allez vous faire avoir. On vous posera la question en entretien d'embauche, c'est sûr, et tout ce que vous allez faire, c'est vous décrédibiliser. Si vous possédez un diplôme de langue, c'est super, il faut le mettre. Entre autres, il y a, bon c'est pas une liste exhaustive, il y a le TOEIC et le TOEFL pour l'anglais, le ZD en allemand, le HSK en mandarin, le DELE en espagnol, etc. etc. Sachez en revanche que nombre de ces diplômes sont limités dans le temps. Le TOEIC, par exemple, est valide seulement 2 ans. Au-delà de ces 2 ans, il faut le repasser. Si vous ne possédez pas de diplôme, détendez-vous déjà, et une fois que vous êtes bien détendu, jetez un œil aux références européennes. Ça s'appelle le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues. Vous trouverez sur internet la définition précise. Vous avez 3 niveaux, A, B et C, qui sont eux-mêmes divisés en 2 catégories. On part de A1 pour un utilisateur élémentaire qui découvre la langue, et ça grimpe jusqu'au C2 pour une personne expérimentée qui peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'elle lit ou entend. Et ainsi, plus de confusion. J'aimerais vous dire 2 mots sur cette classification. Le langage est intimement lié à la pensée. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est donc une avancée formidable de se coordonner à l'échelle européenne. Être sûr qu'un Italien et un Français ont le même niveau d'anglais, c'est hyper positif, parce qu'ils vont pouvoir négocier à égalité. Encore une fois, ça s'applique moins si vous travaillez dans un contexte franco-français, mais dans l'industrie comme en politique, c'est un avantage considérable de connaître le niveau de l'autre et de connaître son niveau à soi. Qu'on soit en compétition contre l'autre lorsqu'on négocie un contrat de vente, par exemple, ou qu'on travaille ensemble sur un projet pour un aboutissement commun, ça va vous aider. Bien évidemment, vous n'allez pas demander son niveau à l'autre. T'es quoi, toi ? Moi, je suis B1. Oh, je sais pas trop si je vais être à l'aise dans la négociation. Ce n'est pas une partie de toucher couler, putain de bordel de scheisse ! Mais connaître votre propre niveau, c'est ça qui va vous donner confiance. Dans le cas où vous seriez niveau A1, donc le plus bas, dans toutes les langues, et que vous cherchiez absolument du travail à l'étranger, Peut-être le mieux c'est d'abord de prendre des cours. Qu'en est-il du breton, du niçois, du basque, du catalan, du wallon, du corse, du picard, de l'alsacien, de n'importe laquelle des 127 langues créoles? Est-ce que vous devez les mettre sur votre CV? Je pense que oui. Et ce, même si votre ambition, c'est la présidence de la République. À vous de voir si vous le placez dans la rubrique langue ou dans vos loisirs. Ça, c'est selon votre stratégie, je dirais. Mais il me semble que c'est positif de l'aborder. Ça augmente votre champ de compétences vis-à-vis du recruteur et en plus, ça montre que vous êtes quelqu'un d'ouvert à différentes cultures. Kenavo ! Et si votre futur chef trouve que c'est ridicule de parler breton, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Suggérez-lui cet épisode. Peut-être qu'il est d'avis de supprimer aussi le terme curriculum vitae parce que c'est latin et c'est une langue morte et il faut vivre avec son temps. Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales indique que curriculum vitae signifie déroulement de la vie. Le terme est fort. Symboliquement, on ne veut pas savoir à quelle fonction vous aspirez, mais bel et bien qui vous êtes. Ah, il y a un truc aussi. Quand je me renseignais sur ça, les résultats Google m'ont affiché une Yahoo Answer. Alors ça vraiment, on va prendre 5 minutes. C'est le genre de forum, enfin, comment c'est possible de... Non, mais faudra que j'en reparle. En tout cas, quelqu'un a demandé sur Yahoo Answer quelle est l'origine du terme curriculum vitae et qui est-ce qui l'a utilisé pour la première fois ? Alors je passe sur l'absence totale d'accent dans cette question. Il manque un R à curriculum et on a mis un H à terme. Comme ça, ça veut bien plus rien dire du tout. J'ai relevé 5 fautes dans cette phrase. Et pourtant, ce que je comprends le moins, c'est la personne qui répond « J'ai beau chercher sur le net, je trouve pas d'origine, désolé. » L'instant conseil. Pour améliorer votre compréhension d'une langue étrangère, vous pouvez écouter vos films ou vos séries en VO, sous-titré VO. Pourquoi sous-titré VO ? Parce qu'à partir du moment où vous autorisez des sous-titres en français, votre cerveau va s'y accrocher. Je vous conseille évidemment l'excellente série House of Cards. Si vous rêvez de présidence, c'est cette série qu'il vous faut. I'm only getting started. Et en ce qui concerne l'allemand, je vous conseille la non moins excellente, sublime et formidable série Deutschland 83 sur un espion est-allemand qui infiltre les rangs de l'Allemagne de l'Ouest. Ça parle politique et donc ça se passe en 83.
Deutschland 83.
L'acteur a depuis reçu la Goldene Kamera à Hambourg et la Deutschen Fernsehpreis. C'est vraiment une bonne série. Sinon, pour l'espagnol, il y a Chica Vampiro. La question de Sandra. Restons dans les langues étrangères. Faut-il un accent grave sur le A de a priori ? Eh bien non. A priori, c'est latin. Et en latin, il n'y a pas d'accent. Donc c'est A sans accent, plus loin, priori. Et comme c'est une expression latine, en plus, il faut l'écrire en italique. Il me faut pourtant préciser que l'Académie française a écrit a priori avec accent jusqu'en 1986. Elle avait francisé l'expression pour coller aux pratiques des siècles précédents. On retrouve en fait des traces de cet accent dans les textes médiévaux. On écrivait alors en latin, c'était la langue avec laquelle on enseignait. Et un jour, il y en a un qui place un accent par erreur, et puis tous les autres suivent, et puis ça continue de siècle en siècle, jusqu'au collègue de Sandra. En revanche, si vous dites un a priori, alors c'est toujours sans accent bien sûr, mais surtout, un a priori, c'est en un seul mot. Je l'ai trouvé dans le journal officiel des rectifications de l'orthographe de l'année 1990. J'espère que ça répond à la question. Ça a été un plaisir pour moi de vous parler. Je vous souhaite une bonne journée et vous retrouverai volontiers la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, laissez 5 étoiles sur iTunes. Je reste à votre disposition. D'avance merci et bien à vous. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam.